Matière à penser, Frédéric Borns.
Matière à penser, ce soir notre dernière rencontre autour d'autres idées de l'Europe. Ce soir une conversation à trois puisque j'aurai le bonheur de discuter à la fois avec Jean-Claude Milner et Philippe Petit. Matière à penser, d'autres idées de l'Europe. L'Europe, ça n'est ni seulement un fait géographique, ni seulement des institutions politiques. C'est d'abord des idées humaines, des idées complexes, des idées politiques, des idées intellectuelles, une conception de la démocratie et de l'être humain. Ce soir, j'ai le grand bonheur de discuter d'une idée cohérente de l'Europe démocratique, telle qu'elle s'exprime dans Considération sur l'Europe, une conversation de Jean-Claude Milner avec Philippe Petit qui vient de paraître aux éditions du CERF. Bonsoir Jean-Claude Milner et Philippe Petit.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. J'ai donné un titre un peu, peut-être surprenant, peut-être un peu compliqué à cette discussion, une idée cohérente de l'Europe démocratique. Jean-Claude Milner, il me semble que dans cette conversation avec Philippe Petit, vous en aviez déjà eu sur la France, hein, des considérations sur la France, et maintenant c'est des considérations sur l'Europe. Il y a justement une cohérence. Et cette cohérence, est-ce que ça n'est pas l'idée que, dans son idée initiale justement, mais qui est fragile, qui peut être pervertie, l'Europe prend le relais des États-nations dans ce qu'ils ont de meilleur, c'est-à-dire la protection des droits des humains, des droits des corps humains et des paroles humaines, des droits de ces êtres compliqués que nous sommes et qui ont besoin du politique. Jean-Claude Milner.
C'était ça certainement le projet de départ. La question était de savoir si ce projet... si ce projet a été mené à son terme et si l'Europe ne rencontre pas sa propre limite du côté de la question des droits. Et pour moi, la question du caractère démocratique de l'Europe est effectivement une question très importante, mais une question qui est en quelque sorte en devenir et qui s'articule plutôt avec la question des pouvoirs de chaque individu ressortissant de l'Europe. La question des droits est évidemment une question absolument fondamentale pour moi, des questions des droits en tant que droit du corps vivant de l'individu. Mais par ailleurs, et ça n'est pas exactement le revers de l'autre question, c'est la question des pouvoirs. Je pense que l'Europe, sur ce point, n'a pas ouvert véritablement la question.
L'Europe ne l'aurait pas fait, Jean-Claude Milner, mais ça pouvait être son idée initiale, cette idée que vous venez de rappeler très fortement, que la démocratie ne consiste pas seulement à protéger des droits d'un individu passif, disons, mais à donner aux sujets, aux individus, le pouvoir de s'opposer aux politiques, des pouvoirs concrets dans la cité, finalement. Des actions qui peuvent s'opposer à ce qui peut leur nuire, mais aussi créer des espaces, agir.
C'est cela. Il faut que le citoyen européen, en l'occurrence européen, le citoyen oui. En général, mais à mon avis, justement, les États-nations ont échoué sur ce point très là, échoué.
Ils l'ont un peu fait quand même. Nous avons quelques pouvoirs, nous autres citoyens de certains pays, malgré tout.
Pas énormément quand on y réfléchit. Pas énormément. Et justement, ce serait une question pour l'Europe que de voir comment. Établir ses droits, ses pouvoirs là où ils n'existent pas, ou les étendre là où ils existent, et notamment de se poser la question de ce que c'est que la forme suprême du pouvoir dans les sociétés modernes. À mon avis, la forme suprême du pouvoir dans les sociétés modernes, sociétés industrielles, technologiques, c'est ce que j'appellerais l'expertise.
Du pouvoir d'en haut, du pouvoir de celui qui s'exerce sur nous, voilà. Pas de nos pouvoirs de sujets vivants.
Et les pouvoirs des sujets devraient être un pouvoir de contre-expertise.
Comme on dit contre-pouvoir, il faudrait exactement. Que les sujets parlants puissent contre-expertiser ce qu'on dit sur eux.
Absolument. Et c'est ce que les États-nations n'ont généralement pas su faire. Et que l'Europe, à mon avis, aurait des moyens de développer. La Cour européenne de justice est un élément, mais un élément juridique. Ce n'est pas suffisant. Je pense que si l'Europe peut jouer un rôle de en quelque sorte, le développement de contre-pouvoirs qui s'opposent au pouvoir les plus insistants dans les sociétés modernes, c'est dans cette dimension de la contre-expertise, au sens le plus large du terme,
mais
contre-expertise
justement,
juridique, etc.
Justement, Jean-Claude Milner, au fond, on voit bien déjà dans ce que vous venez de dire que vous placez très haute la barre politique pour l'Europe. Et aussi, finalement, la déception qu'on pourrait avoir. On a l'impression que dans les pays, dans les États-nations, disons, nous avons quand même une conversation intellectuelle comme la nôtre est déjà un contre-pouvoir. On peut s'opposer à certains discours, on peut aussi avoir des oppositions politiques. On a l'impression que l'Europe, loin de stimuler la contre-expertise, est une Europe d'experts, est une Europe de rapports technocratiques, et que finalement, bien loin d'aller dans le sens que vous dites, elle serait même allée dans le sens inverse, et qu'une conversation intellectuelle à trois, comme ce soir, par exemple, est justement déjà une demande de contre-pouvoir.
Oui, c'est très exactement ce que je pense. L'Europe s'est développée comme une Europe d'experts, et de ce point de vue-là, l'image, il faut bien le dire, négative, que l'organisation européenne a finalement développée auprès des individus pris isolément ou en petits groupes, cette image négative tient à cela. Et donc, il y a là quelque chose qui est, à mon avis, j'ai employé un terme fort, c'est mon vocabulaire, un ratage. De la part de l'Europe telle qu'elle s'est développée, ou en tout cas, une marche qui a été manquée.
Mmh. On voit la très grande cohérence de votre propos et Philippe Petit, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais quand vous êtes passé des considérations sur la France avec Jean-Claude Milner à maintenant ces considérations sur l'Europe, je pense que vous aviez envie de prolonger la cohérence de Jean-Claude Milner de la France à l'Europe et en même temps aussi de mesurer ce que c'est que ce pouvoir intellectuel de contre-expertise, c'est-à-dire vous menez un projet vous-même intellectuel avec des intellectuels. Est-ce que pour vous, c'est ces deux aspects, à la fois avec Jean-Claude Milner et dans votre projet plus général?
Alors, oui, mais il faut peut-être bien entendre que créer des pouvoirs pour Jean-Claude Milner, et là je suis d'accord avec lui, c'est effectivement développer le droit de contre-expertise, mais c'est aussi rompre avec ce que lui-même appelle la culture de la promesse. Créer des pouvoirs, c'est créer des pouvoirs de décider pour l'individu.
Oui, pas seulement.
Pas uniquement de, par exemple, de débattre. C'est très important de discuter.
Vous n'allez pas dire le contraire, Philippe Petit.
Non,
vous
je ne vais pas dire le contraire.
Dans tous les côtés de ce micro,
bien
de
sûr,
station de radio,
mais,
des journaux.
Je dirais que de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a des limites à la délibération. Tout simplement, au sens habermassien du terme, si vous voulez. Délibérer, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut entendre, je pense, dans l'expression créer des pouvoirs, chez Jean-Claude Milner en tout cas, l'idée de pouvoir de décision. Parce que Jean-Claude Milner, c'est un minimaliste. Des maximalistes, on en rencontre tous les jours. C'est pour ça que je dis rompre avec la culture de la promesse. Ça fait partie, si vous voulez, du langage maximaliste. C'est comme les gens qui en appellent immédiatement au peuple, par exemple. Donc être minimaliste, ça veut dire essayer de cerner un problème dont la conclusion, là, c'est comme si on avait commencé par la fin du livre. Mais je voudrais citer quand même cette phrase de Jean-Claude Milner. « Ma crainte a longtemps été que l'Europe continue de faire de mauvais choix. Ma crainte nouvelle est que l'Europe ne continue pas. » C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre conscience de cela aujourd'hui. Que ce soit Hubert Védrine quand il dit dans son livre « Sauver l'Europe », il faut faire une pause, et la théorie, disons, des centres concentriques où il faudrait se restreindre sur une Europe, plus réduite, on voit bien qu'il y a ceux qui prennent la pause, il y a ceux qui disent « il faut arrêter l'Europe à 27 », et il y a ceux qui ont la crainte, et c'est celle de Jean-Claude Milner, je crois, dans son livre, qu'on est à un moment de bascule.
Oui, mais alors, Jean-Claude Milner, est-ce que vous êtes d'accord avec cette description et si je peux ajouter un adjectif, avec cette idée d'un minimalisme, mais radical, c'est-à-dire la survie des corps mais avec des pouvoirs réels, comme Philippe Petit vient de le rappeler, passe par des pouvoirs politiques réels, pas seulement en effet par des promesses utopiques, mais par des pouvoirs concrets, de bloquer en tout cas certains abus de pouvoir. Et à ce moment-là, on pourrait presque dire, comme vient de le dire Philippe Petit, que si l'Europe n'assure plus ce pouvoir minimal, elle est elle-même menacée de ne plus survivre.
Il ne faut pas, je crois, se méprendre. Il est assez facile de se perdre dans le labyrinthe du vocabulaire des droits et des pouvoirs. Je ne dis pas du tout que considérer que les pouvoirs et les droits soient réciproques, je ne dis pas que ce soit faux, mais je pense qu'il est intéressant de séparer. Je pense que la question des droits est une question absolument essentielle. Et pour moi, les droits passent par des formulations. Les droits, ça n'existe que dans la mesure où ils sont formulés explicitement.
Je rappelle, Jean-Claude Milner, que vous êtes philosophe au sens très large, vous développez une réflexion d'ensemble, mais qui est passée par la linguistique, et par une linguistique où justement le langage, le symbolique est constitutif aussi de l'humain. Donc quand vous dites que les droits passent par la formulation, par le langage, par la loi, c'est aussi... anthropologique, c'est notre destination.
Voilà, c'est pourquoi je prends très au sérieux l'expression déclaration. Un droit n'existe que s'il est déclaré. Un droit implicite n'est pas un droit. Cela suppose que le politique, si on considère que le politique a pour fonction d'élaborer des droits, de politique est centré sur la déclaration et cette déclaration de ce qui est nécessaire à la survie des corps dans la multiplicité, la coprésence des corps. Il ne va pas de soi que des corps pris ensemble ne se s'entre-dévorent pas.
Et soient déclarés, disons que leur survie soit déclarée nécessaire, importante et voilà. Comme un objectif.
L'entre-dévoration des corps est ce qui ne doit pas être la règle. La règle doit être la coprésence maintenue de corps qui soient non seulement des corps vivants, mais indissolublement des corps parlants. Cela veut dire que comme on ne parle pas en cœur, c'est la grande différence entre
nous autres humains,
entre la parole et le chant. C'est là-dessus que la pensée de Rousseau achoppe. Le chant, pour lui, est en cœur.
Serait la vérité de la parole humaine, l'utopie.
Et nous ne parlons pas en cœur. Cela veut donc dire que quand quelqu'un parle, les autres se taisent. Et le risque, c'est que quand ils se taisent, ils cessent d'être parlant en actualité douce, que j'appelle, reprenant le terme de Rousseau, que Rousseau a repris plus exactement, le terme de contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a de communauté d'êtres parlants, donc à l'intérieur desquels une voix énonce un droit, sous la forme d'une règle, par exemple. Cela suppose que ceux qui se taisent pour écouter et entendre, et accepter l'engagement de se taire parce qu'ils ont en même temps la promesse qu'ils vont reprendre la parole.
Alors justement, Jean-Claude Milner, pour aussi aller dans le sens de ce que disait Philippe Petit, donc dans un premier temps, et vous les dissociez, parce que pour vous ça n'est pas automatique, il faut d'abord accorder des droits, mais ensuite, et ça n'est pas automatique, on l'entend bien, ensuite il faut quand même... que ces droits donnent lieu à des pouvoirs, que le droit d'être entendu puisse donner lieu au pouvoir de parler, pour résumer.
C'est ce qui apparaît dans
c'est insuffisant.
C'est ce qui apparaît dans la Déclaration des droits de l'homme sous la forme d'un pouvoir constant de soumettre à examen quelque décision que ce soit qui a été prise par ceux qui sont en droit de la prendre. Est-ce que cette décision est conforme, non pas simplement au droit, mais au principe du droit.
C'est-à-dire au pouvoir de contester, là.
C'est un pouvoir de contester, et ce pouvoir, au moment où la Révolution française prend forme, est un pouvoir qui est fondamentalement un pouvoir de prise de parole. Je dirais que la Révolution française, c'est une prise de parole. Mais dans les sociétés modernes, pour reprendre l'expression d'un philosophe qui n'est pas mon maître à penser, mais qui a nommé au moins une situation, à savoir la toute-puissance de la technique, cela veut dire que si la technique est toute puissante, ça fait dire que tous les pouvoirs sont du côté de la technique.
Donc vous voyez quand même dans la technique comme expertise une confiscation de la parole, alors que pour vous, l'impuissance de la démocratie se traduit toujours par, disons, le non-accès à la parole. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez en France et en Europe à ce besoin de parole qui remonte ?
Il a été, je pense qu'il ne, il s'exprime sous une forme confuse. Il s'exprime, je dirais, sous une forme où la confusion l'emporte sur la clarté. Mais ce qui est clair, c'est que la toute-puissance de la technique inclut les pouvoirs de la parole. Et donc, ce que j'appelle l'expertise, c'est en vérité cette espèce d'entrecroisement de la parole et du pouvoir de la technique. Et d'où la nécessité absolue de la contre-expertise.
Mais alors, Philippe Petit, quand même, vous avez un peu minimisé votre propre entreprise de dialogue intellectuel, mais elle s'inscrit quand même de façon très cohérente dans ce que Jean-Claude Milner vient de dire. Bien sûr, il faut que cette parole ait des effets politiques, mais il faut d'abord pouvoir aussi ouvrir le champ intellectuel de la parole. Et là, il faut des institutions, il faut des éditeurs. Vous publiez des séries d'entretiens aux éditions du CERF, il faut des médias, il faut une scène publique, il faut des intellectuels, il faut aussi des journalistes et des gens qui fassent le passage. Donc ça confirme quand même, c'est pas une impuissance de la promesse.
Oui, mais dans la mesure où cette culture de la promesse est quand même assez envahissante, il faut justement pouvoir rétablir un peu de clarté, non pas forcément lever des équivoques, mais dans le cas de l'Europe, disons, c'est évident. Par exemple, quand Jean-Claude Milner parle d'un usage rationnel du mot « nation », et tout de suite, ça va faire bondir X, Y, Z, etc. Mais il faut pouvoir aller au-delà et justement voir qu'est-ce qui peut être gardé,
oui, mais
disons,
justement,
de cet usage.
Philippe Petit, justement, parce que voilà, si on détache un énoncé, les gens vont en effet le rapporter à d'autres significations, mais usage rationnel de la nation,
oui.
Si on comprend que la nation peut aussi avoir un rôle de protectrice des corps et des droits et même de donatrice de pouvoir, que l'Europe peut prendre le relais, on voit la cohérence entre la nation et l'Europe. Donc il faut donner aux intellectuels aussi en Europe le temps d'exprimer leur cohérence. Et est-ce que ce n'est pas ça que vous essayez de faire, justement, de donner le temps aussi à des visions intellectuelles l'Europe de s'exprimer.
Dans ce sens-là, d'ailleurs, le mot conversation, voilà. Disons, n'est pas neutre. Il est sûr que ce n'est pas exactement une interview, si vous voulez, même si j'ai du respect pour les interviews. Donc une conversation, ça implique effectivement des déplacements, des moments, disons, de repos, de réflexion, et qui peuvent permettre, si on prend par exemple l'Europe des traités, si on prend la question de la paix et de la guerre, ce qui m'a intéressé dans la manière dont Jean-Claude Milner l'aborde, c'est que justement il établit des distinctions. Par exemple, prenons le cas de la guerre, puisque nous parlons de l'Europe, et il distingue la guerre formelle, celle que l'on déclare, et la guerre matérielle, qui peut être le droit d'ingérence ou ce que fait la France au Mali ou dans d'autres pays d'Afrique. Donc, à chaque fois, si vous voulez, les termes mêmes du débat, de la conversation, sont relancer de telle façon à ce qu'on ne puisse pas les fixer, si vous voulez, définitivement. Et c'est ça qui m'importe.
Ce qui vous a intéressé, j'imagine, et l'un et l'autre d'ailleurs, dans cette conversation que vous avez eue, c'est d'assumer que quelques thèses philosophiques très cohérentes, comme ça, sur le sujet démocratique, pouvaient rayonner dans tous les sujets concrets de la politique européenne d'aujourd'hui. Vous avez pris ce risque aussi, de non pas de donner un avis, mais d'entrer dans des sujets les plus concrets de la politique européenne, de son histoire, mais à la lumière de quelques grands principes. C'est ça que vous cherchiez, Philippe Petit ?
À la lumière de quelques grands principes, et surtout à la lumière d'une articulation, si vous voulez, entre les principes et l'histoire, le mot que vous venez, et les processus historiques. Il est certain que si on parle de l'Europe à 27, de la montée du populisme, sans se référer à la question de l'Empire, c'est-à-dire au fait que pour un certain nombre de peuples de l'ex-Europe de l'Est, l'Europe est vécue comme une figure impériale, on ne comprend rien, si vous voulez, à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, y compris l'alliance entre Orban et la Chine, la visite du président chinois en Italie. Donc cette question, par exemple, qui inaugure le livre, cette question de l'Empire, mais elle est absolument centrale. Alors d'autant plus que effectivement, quand il y a eu le basculement de la fin du communisme, et notamment la guerre en ex-Yougoslavie, on a été frappé, alors là c'est vrai d'un point de vue générationnel, par l'oubli. C'est incroyable quand on compare à la
l'amnésie européenne.
Mais l'amnésie, la fin des années 80, le début des années 90, on ne parlait que de la Pologne, on ne parlait que de la Hongrie, on ne parlait que de la Lituanie, on ne parlait, et hop, du jour au lendemain, plus rien sur sur ce monde-là, si ce n'est sous la figure du diable, disons, aujourd'hui. Donc, il y a une absence de continuité évidente, si vous voulez, qu'il faut refaire ressurgir.
On va revenir sur ces points, parce qu'effectivement, dans le travail et les conversations avec Jean-Claude Milner, il y a cette idée, au fond, positive, cet horizon possible pour la démocratie européenne, mais il y a aussi l'histoire réelle avec sa face sombre, avec l'oubli possible de cette face sombre et de cette tension entre ces empires et ses crimes aussi de l'Europe et son idée démocratique possible. Je crois que le morceau de musique que vous avez choisi pour jalonner notre conversation illustre à la fois cet espoir et cette gravité. C'est un des chants sérieux de Johannes Brahms.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir à la recherche d'une idée cohérente de l'Europe démocratique, avec et grâce à Philippe Petit et Jean-Claude Milner qui viennent de publier leur conversation intitulée « Considérations sur l'Europe ». Avec aussi la voix de Kathleen Ferrier que nous venons d'entendre dans un chant sérieux de Johannes Brahms. Jean-Claude Milner, vous avez choisi ce morceau. Nous avons discuté dans un premier temps de votre conception je dirais, de la politique démocratique qui assure un minimum radical de la survie des corps et des pouvoirs de la parole humaine dans un espace politique. Dans votre idée, l'Europe peut se conformer à cette idée, mais elle a aussi des risques qui la hantent. Il y a le risque, on en a un peu parlé, de la technocratie qui confisque cette parole politique. Mais il y a des risques encore plus sombres. Vous avez écrit, il y a quelques années, avant cette conversation avec Philippe Petit, un autre livre où le mot « Europe » figure dans le titre, en 2003, « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Déjà, la question de l'Europe démocratique, vous travaillez, Jean-Claude Milner, mais cette fois-ci par sa face sombre. Et l'Europe doit aussi explorer cette face sombre qui peut miner son horizon démocratique, Jean-Claude Milner.
On ne peut pas faire l'impasse sur les conditions de naissance du projet européen, je pense au traité de Rome, bien entendu, à sa naissance, rassemble des pays qui ont pour point commun d'avoir été soit par eux-mêmes des pays nazis ou fascistes, je pense à l'Italie et à l'Allemagne, soit dominés, vaincus par les puissances de l'Axe. C'est donc...
Avec cette question, donc, en tout cas, au cœur du problème.
Je pense qu'elle est au cœur du problème, puisque elle explique aussi la dimension démocrate chrétienne. Il faut bien se souvenir que la démocratie chrétienne en Europe continentale est essentiellement catholique. Que le Vatican l'ait approuvé ou pas, c'est une autre question. Elle est essentiellement catholique. Et qu'elle prend sens dans un monde où il y a deux blocs. Un bloc, évidemment le bloc de l'Est, qui est un État athée, où toutes les religions sont considérées comme devant être persécutées.
À la fois des illusions et des crimes, finalement.
Voilà, avec à la rigueur une exception pour l'orthodoxie qui peut mobiliser le peuple russe, mais c'est une exception très fragile. Et de l'autre côté, le bloc de l'Ouest, qui est dominé par des deux grandes puissances protestantes, traditionnellement protestantes, que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Kojève avait écrit un texte à sa manière dans les années 46 en disant il faut construire un empire latin chrétien.
La dimension chrétienne de l'Europe se vivait comme une dimension géopolitique dans ce cadre-là.
Mais quand j'ai dit un empire latin chrétien, j'ai tort. J'ai dit un empire latin catholique. C'est le mot qu'emploie Kojève. C'est-à-dire que il s'agit pour les pays qui sortent de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe de l'Ouest, de quoi ? Soit d'une oppression, puisque l'Allemagne a été opprimée par son propre régime, de même que l'Italie, soit de la défaite, ce qui est le cas de la Hollande, ce qui est le cas de la Belgique, ce qui est le cas de la France, pour construire quelque chose qui s'autonomise à l'égard de ces deux blocs. Alors, pas militairement, puisque, bien entendu, l'Europe ne va pas développer une armée propre, ça a été une question posée, mais elle ne va pas le faire. Mais, en tout cas...
La guerre a quand même eu lieu, comme a dit Ponty, par exemple, et l'armée...
En tout cas, politiquement, il est clair que l'alignement de la forme démocratique de gouvernement en Europe continentale ne se fera pas automatiquement, sans originalité, sur le modèle anglo-saxon. Il y a une originalité à trouver du côté de l'Europe. Et c'est la démocratie chrétienne qui va fournir cette originalité. Le problème, il est double. C'est que la démocratie chrétienne a été prise dans le mouvement de décadence qui a frappé le catholicisme dans son ensemble en Europe. Et le deuxième point, c'est que les démocraties européennes étaient à leur naissance des démocraties nationales, où la question de la langue nationale est fondamentale, et peu à peu, l'Europe va commencer à se poser la question de savoir si son développement Compatible.
Compatible ou contradictoire avec les nations. Mais voilà. Jean-Claude Milner, vous insistez, et c'est très important, sur la dimension chrétienne de la démocratie européenne après la Seconde Guerre mondiale. Ça semble un enjeu géopolitique majeur dans le paysage que vous avez décrit. Mais dans votre livre, et c'est quand même aussi ces spectres qui hantent votre dernier livre avec Philippe Petit, dans votre livre de 2003, c'était aussi cette dimension chrétienne, une forme de rédemption illusoire après des massacres, après des crimes, dont pour vous, l'Europe démocratique est toujours potentiellement porteuse. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire démocratique si ces crimes, et notamment l'extermination...
Disons les choses très brutalement. Ce qui est sous la table, lors du traité de Rome, c'est que l'Europe de l'Ouest est Judenrein.
Et Judenrein, c'est-à-dire c'est le terme du génocide.
Le terme du génocide. Que la question juive qui a travailler l'Europe continentale depuis 1789 comme question politique, pas simplement comme question communautaire, mais comme question politique.
Politique fondamentale, même au fond, définissant le cœur du politique européen.
Exactement. Cette question-là, qui a été le problème, un des grands problèmes de la construction de l'Europe occidentale, ne pas résoudre la question juive par la persécution, c'est le choix qui définit ce qu'on pourrait appeler la société civilisée européenne, qu'elle soit française, allemande, etc. Cette question-là a trouvé sa solution définitive. Donc c'est sous la table. Personne ne le dira ouvertement. Mais
a trouvé son crime définitif et...
Et sa solution définitive. Je dirais que de ce fait-là, je reprends une expression de Danny Trom, l'anti-antisémitisme est devenu la condition de constitution de l'Europe.
Démocratique.
Mais cet anti-antisémitisme est lui-même conditionné par le fait qu'il n'y a plus de problème juif. Et il n'y a plus de problème juif parce que le problème a été résolu de manière définitive. Et il a été résolu de manière définitive par l'extermination.
C'est effectivement lié, certainement, le génocide et, disons, l'interdit de l'antisémitisme, mais ça pourrait aussi être lié, comme Sartre avait essayé de le dire, par le fait que désormais, même le plus petit antisémitisme portait en lui le crime absolu, l'extermination absolue. Donc pas seulement peut-être par la réalité, mais aussi par l'interdit rétrospectif de cette réalité. Philippe Petit, quand vous avez repris ces conversations avec Jean-Claude Milner sur l'Europe, vous aviez aussi envie de creuser ces faces sombres que Jean-Claude Milner explore de façon si radicale, autant que disons, la dimension positive, fondatrice de la démocratie. On est toujours surpris quand on entend Jean-Claude Milner, à la fois par cette déclaration des droits, pour ainsi dire, et par ce réalisme du crime.
Oui, je dirais à la fois ces faces sombres et les retournements et les étonnements. Il n'y a pas de lien entre ce que Jean-Claude Milner vient de dire de la démocratie chrétienne et le pape, qui est également présent dans le livre.
Il y a peut-être un petit lien malgré tout.
Pas de lien direct. Je veux dire, pas de lien direct.
J'envoie les lecteurs à ces passages pour se faire une idée.
Si ce n'est que il y a un parallèle, alors moi qui m'a fait rire, parce qu'il faut dire aussi que ce livre est drôle. Faudrait pas uniquement s'enfoncer dans le noir.
C'est un labyrinthe de surprises, en tout cas. À chaque page, on a une surprise et une révélation.
Notamment, c'est là où j'en viens au parallèle avec la démocratie chrétienne et le pape, et le lien entre Obama et le pape. D'abord, on est surpris de voir à quel point Obama est critiqué dans ce livre par Jean-Claude Milner. Obama, il considérait l'océan Atlantique comme une mare aux canards, avec deux déversoirs associés, la Baltique et la Méditerranée. Obama n'a accordé aucune importance à l'OTAN, ce qui est vrai. Alors, quand on voit les débats actuels sur l'OTAN, d'une part, et puis, d'autre part, le pape, je fais le lien.
Le raccourci.
Alors, le pape que beaucoup de bons esprits pensent ouvert, progressiste, etc. Il est, pour le moins, là, oui, jeté à terre par Jean-Claude Milner.
Le critère commun, Philippe Petit, avant de demander confirmation à Jean-Claude Milner lui-même, c'est que sont critiqués ceux qui ne prennent pas au sérieux ce qu'on pourrait appeler un peu facilement le tragique de l'histoire. C'est-à-dire ceux qui croient que les enjeux de la guerre européenne sont finis, que finalement la démocratie à gagner et qu'il y a d'autres horizons à conquérir, alors que le ferment de la démocratie européenne et de sa crise possible est toujours là.
Oui, mais du coup, ça interroge notre lien aux États-Unis et parfois notre aveuglement, voire notre soumission parfois. Et effectivement, ça nous renvoie au pied du mur. Ce que je disais tout à l'heure un petit peu rapidement, à partir du moment où on se pose la question de savoir si l'Europe peut encore continuer, on voit bien que on n'est pas devant une alternative de pure
débat. Voilà, on est devant le tragique de la survie ou de son interruption.
Absolument.
Mais encore une question, Philippe Petit, vous avez une série de conversations avec des intellectuels, disons français, qui étendent une réflexion majeure à la question européenne aujourd'hui. Est-ce que vous pensez continuer avec des intellectuels européens? Est-ce que, pour vous, l'idée d'intellectuel européen est possible? Est-ce que ce n'est pas aussi une condition du projet européen lui-même?
Bien sûr qu'elle est possible, mais c'est vrai que je m'en suis tenu, disons, pour l'instant, aux intellectuels ou aux penseurs ou penseuses de langue française. Et comme je vous le disais, je pense qu'aujourd'hui, intellectuel européen, écoutez Sloterdijk, il n'arrête pas de moquer 24 heures sur 24 l'immobilisme convulsionnel de la France.
Oui, mais la vraie philosophie se moque de la philosophie.
Absolument.
Un intellectuel n'est pas toujours euphorique.
On n'est plus dans les années 90. On n'est plus dans ce moment où Jacques Derrida allait à Moscou pour aller traduire Bergson, Freud. On n'est plus dans ce moment, d'ailleurs, qui est retombé comme un soufflet.
Alors, il faut le faire revenir.
Certes, mais pas sous la même forme. Et je pense que là, il y a beaucoup à inventer. Il ne se suffit pas de se décréter aujourd'hui intellectuel européen ou écrivain européen, et on ne va pas descendre le Danube éternellement, même si c'est charmant, mais on voit bien qu'on est dans une toute autre configuration. D'abord, on est cerné, l'Europe est cernée, et le conflit États-Unis-Chine nous met en demeure, et il n'est pas du tout sûr que l'on remporte la partie, et je dirais même qu'elle a mal commencé.
Qu'est-ce que vous pensez de cette question, Jean-Claude Milner, vous qui donc avez exploré ces risques et ces penchants, même criminels, de l'Europe démocratique? Est-ce que vous pensez qu'il faut les assumer d'une certaine façon et que l'Europe a besoin des intellectuels européens pour le faire?
Mais je commencerai par la fin de votre question, c'est ce pluriel, les intellectuels européens.
Oui.
Dans l'état actuel des choses, les intellectuels européens, c'est un pluriel inconsistant. Pour une raison toute simple, c'est que jusqu'à présent, les intellectuels s'expriment en langue. Et les langues sont divisées. Donc, de ce point de vue-là, les intellectuels européens sont atteints de la malédiction de Babel.
Il n'y a pas de langue commune pour parler en Europe.
Il n'y a pas de langue commune pour parler en Europe. Et il n'est pas du tout sûr que les intellectuels tels qu'ils se conçoivent eux-mêmes, souhaitent tous une langue commune, certaine, la souhaitent.
Mais malgré tout, Jean-Claude Milner, bien sûr, la question de la langue est cruciale. Mais au-delà de la question de la langue, il y a ce dont on parle. Et cette question dont vous parlez des penchants criminels, vous la mettez bien sous le signe de l'Europe. On doit pouvoir en parler avec des intellectuels polonais, avec des intellectuels allemands, avec des intellectuels italiens. Est-ce que ça n'est pas même nécessaire pour affronter ces...
Non, mais je ne dis pas du tout que ce ne soit pas nécessaire. Mais en tout état de cause, on ne pourra pas faire l'impasse lorsqu'on aborde cette question, cette face sombre de l'Europe, on ne pourra pas faire l'impasse sur le fait qu'aujourd'hui encore, elle résonne en termes nationaux pour chacun de vos interlocuteurs. Les Allemands de l'Ouest, par exemple, les Allemands de l'Est, n'ont pas un écho intérieur semblable à l'égard de la question du nazisme. Tout simplement parce que l'histoire n'est pas la même. L'histoire de l'Allemagne de l'Ouest et l'histoire de l'Allemagne de l'Est à l'égard du passé nazi n'est pas du tout la même. Et ne parlons pas des intellectuels polonais, où la question de savoir si la Pologne est une victime innocente ou si elle a pris part ou pas.
Coupable,
c'est compliqué. Ouais. Très compliqué. Oui, mais... Il y a eu des incidents récents.
Bien sûr.
Dans un cadre
universitaire. Universitaire. Un colloque sur l'histoire de la Shoah qui a été perturbée par l'extrême droite antisémite polonaise.
Oui, une extrême droite antisémite dont rien ne prouve que elle n'est pas compris ou contenu des intellectuels aussi.
Bien entendu.
Donc, voilà, nous en sommes, de ce point de vue-là, encore à l'étape initiale. Ne croyons pas que l'Europe soit parvenue, à tous les points de vue, à un état de maturité. Elle est parvenue à un état de maturité, et peut-être même de décadence, en ce qui concerne son organisation administrative. Peut-être qu'elle est passée directement de l'étape du balbutiement à l'étape de la décadence, mais elle n'est certainement pas parvenue à la maturité en ce qui concerne l'abord de la question de ce passé à la fois lointain et récent de l'extermination. De l'extermination des Juifs d'Europe et des Tziganes d'Europe. La question des Roms ne peut pas être posée indépendamment de la question du sort des Tziganes.
Mais alors Jean-Claude Milner, justement, une dernière question. Malheureusement, le temps passe très vite sur ces sujets essentiels. Vous dites qu'il n'y a pas encore de langue commune. Il y a quand même une Europe qui peut donner des pouvoirs de la parole, encore très minimaux, très fragiles, menacés par la technocratie. Du côté du négatif, au fond, vous insistez beaucoup, quant au génocide, sur le non-juif, le non-NOM, cette trace dans le langage qui a voulu être détruite par l'antisémitisme. Aujourd'hui, il y a aussi la présence, j'allais dire, des noms ou de la langue arabe, islamique. Il y a toujours une altérité dans la langue européenne. Comment faire pour que cette altérité commune ne soit pas l'objet d'une détestation commune, que finalement l'Europe démocratique se constitue pas contre un autre, mais puisse étendre cette Europe à cette altérité. Ce sera malheureusement notre dernière
Eh bien, je dirais que question. Aujourd'hui, ce n'est pas le lieu d'une solution, c'est le lieu d'une tentation. La tentation, c'est précisément de réduire le problème à néant en adoptant pour l'Europe une langue commune qui sera l'anglais, d'autant plus que la Grande-Bretagne aura quitté l'Europe.
Vous pensez que c'est ça le danger ou
si le Brexit
la solution
a lieu,
minimale?
Si le Brexit a lieu, la langue de l'Europe sera l'anglais.
Et le reste s'en suivra.
Et le reste, on s'en suivra.
Essayons de reparler de l'Europe, de remettre cette question des pouvoirs du sujet parlant humain au cœur de la démocratie de façon cohérente dans les États-nations et en Europe et dans plus d'une langue et contre l'extermination du langage. Merci à vous deux, Philippe Petit, Jean-Claude Milner, d'être venus continuer votre conversation. Matière à penser, c'était notre cinquième et dernière rencontre pour penser d'autres idées de l'Europe. Ce soir, une idée cohérente de l'Europe démocratique avec Philippe Petit et Jean-Claude Milner. Grâce et avec aussi Joséphine Lampreya, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvilles, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous avec Dominique Rousset lundi prochain qui prolongera ses conversations de matière à penser sur le travail. We'll be right back.